chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes sur LFM 93.1 dans La vie est un roman. Et aujourd'hui, puisqu'on vient d'entendre un extrait de Boris Godounov, nous allons parler d'un autre homme politique très connu et d'un grand cinéaste. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Alain Amarelio qui va nous présenter notre invité et le sujet du jour. À toi, Alain.
Bonjour, Georges Mourier.
Bonjour.
Napoléon a écrit « Quel roman que ma vie !» Et aujourd'hui, dans La vie est un roman, nous accueillons l'homme qui a restauré le film « Napoléon, vu par Abel Gance ». Vous êtes cinéaste, documentariste, réalisateur et vous avez mené à bien, avec votre équipe et notamment votre assistante monteuse Laure Marchaud, la restauration et, selon les mots de Costa Gavras, la reconstruction de ce chef-d'œuvre du cinéma. Nous sommes très heureux de vous avoir ici et de pouvoir vous interroger sur ce travail herculéen que vous avez accompli et son extraordinaire résultat qui a permis la renaissance du film, sa présentation aux critiques, puis au grand public, à Cannes, à la Cinémathèque française, à la scène musicale, dans les salles cet été ou en plein air, en tournée en Corse, une tournée qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminée. Et il y a aussi un livre, Napoléon par Abel Gance, ouvrage collectif paru aux éditions de la Table Ronde et auquel vous avez participé, aux côtés notamment de Costa Gavras, président de la Cinémathèque française. Le défi de cette émission, c'est qu'elle ambitionne de rendre compte de votre travail, c'est-à-dire d'une odyssée d'une quinzaine d'années, autour d'un film de légende consacré à un personnage lui-même légendaire, une épopée à la puissance 3, en quelque sorte. Alors Napoléon, nous ne le présenterons pas ici, mais il nous faudra bien sûr évoquer le film légendaire, lyrique, hugolien, dont on ne sait même pas donner la durée, mais désormais on peut.
Oui.
Et cette version, la dernière, selon la Cinémathèque française, vous nous direz ce que vous en pensez, dure 7 heures. C'est un film muet, mais musical, pour lequel une nouvelle partition a été composée par Simon Cloquet-Lafolie pour aboutir à la plus longue BO de l'histoire du cinéma. Un film en noir et blanc, mais qui joue aussi de la couleur. Un film de 1927, c'est-à-dire qu'il est à peu près à mi-chemin entre Napoléon et nous, et un film martyr, selon les mots de Costa Gavras, qui a dit aussi à Cannes, c'est un des plus grands films de cinéma français, et sans doute un des plus grands films de cinéma mondial. Ce n'est pas une biographie, c'est la passion d'un homme pour un autre homme très célèbre, et avec qui il a fait un film qui est, à mon avis, donc c'est toujours Costa Gavras qui parle, un poème lyrique en images, c'est unique. Georges Mourier, peut-être avant de parler de votre travail, voudrez-vous nous dire quelques mots sur le film et ce qui le rend si important dans l'histoire du cinéma?
Ben, à ce niveau-là, je pourrais presque paraphraser Gance qui disait de Napoléon, ce qui m'intéresse dans le personnage, c'est que c'est un personnage paroxystique à une époque de l'histoire qui elle-même est un paroxysme. Et comme il y a Gance par-dessus, Gance lui-même aussi est un personnage paroxystique, et ça va faire que la rencontre à la fois de la créativité de Gance sur le caractère très complexe et aussi légendaire de Napoléon va faire que le Napoléon vu par Abel Gance va être une centrale nucléaire d'énergie, une création d'idées pour le langage cinématographique, absolument extraordinaire. Le film sera salué comme un chef-d'œuvre dès sa sortie. Beaucoup de gens diront qu'il est en avance de 20 à 30 ans sur le cinéma, mais d'autres, bien plus tard, comme Georges Sadoul, dira, un très grand historien du cinéma, dira qu'il y a certaines séquences dans le Napoléon d'Abel Gance qui ouvrent au langage cinématographique des voies qui ne sont pas encore toujours explorées. Et nous sommes en 2024, vous voyez, je peux confirmer que Sadoul avait tout à fait raison. Donc le film, c'est presque un ovni, c'est-à-dire un objet filmique non identifié dans lequel on ne peut pas le mettre dans un genre, on ne peut pas le mettre dans une catégorie, comme a dit très bien Costa Gavras, ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un biopic, c'est un poème. Lui-même, Gance, disait, il ne s'agit pas, en 1927, il ne s'agit pas de morale, il ne s'agit pas de politique, il s'agit d'art. Et je pense que le film comme disait Philippe Hainaut, l'historien Philippe Hainaut qui avait été secrétaire d'Abel Gance, Napoléon c'est un baobab dans un jardin à la française. Donc il ne rentre dans aucune norme, il ne rentre dans aucune grille analytique, et même presque plus de 40 ans après la mort de Gance, pour la restauration du film, il a fallu aussi s'adapter au cas Napoléon. C'est presque plus l'histoire du cinéma qui s'adapte au Napoléon vu par Abel Gance que le film qui fait partie de l'histoire mondiale du cinéma.
Et évidemment, son réalisateur qui, lui, fait partie aussi de cette histoire et qui est tout à fait, comme vous l'avez souligné, particulier, exceptionnel, unique. Et on va écouter un premier extrait sonore que vous nous avez apporté. Mmh. Abel Gance, j'ai réalisé seulement hier qu'il est né la même année que Chaplin.
Que Chaplin, Cocteau et Hitler.
Ah,
c'est
oui,
vous dire l'année. C'est vous dire l'année, oui.
Une année chargée, 1889, qui, oui. Qui est aussi d'ailleurs l'année du centenaire de la Révolution française. Mm-hmm. Et nous allons écouter une archive sonore sur laquelle vous allez peut-être nous dire quelques mots d'abord, la proclamation.
Oui, en effet, il faut savoir que le Napoléon vu par Abel Gance, donc, que j'ai restauré pour la Cinémathèque française, n'est que le premier des 6 films qu'il devait tourner sur l'ensemble de l'épopée napoléonienne. Donc rien que le premier film dure déjà 7 heures. Et puis pour des raisons de production, des raisons plus complexes, il n'a pas pu mener à bien cette fresque. Mais c'est pour cela que quand, en juin 1924, il écrit cette proclamation qu'il a lue, quelques années plus tard, l'enregistrement date d'une vingtaine d'années plus tard, c'est une proclamation qu'il envoie à tous ses techniciens, tous ses collaborateurs, que ce soit les vedettes, les acteurs, les figurants, les techniciens surtout, et il dit justement qu'on va faire de 1792 jusqu'à 1815. Il ne sait pas encore qu'il ne pourra réaliser que la première partie, mais c'est pour vous donner une petite idée de quelque chose qui était très caractéristique de Gance. C'est pas quelqu'un d'autoritaire sur un plateau, c'est pas quelqu'un qui pousse des gueulantes, des colères, qui est irascible. C'était quelqu'un qui était étrangement d'une très grande douceur, d'une très grande politesse, mais qui avait le don, et il l'a prouvé avec le Napoléon, d'amener tous les gens qu'il rencontrait exactement là où il voulait. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Et donc cette proclamation, elle est lue par lui des années plus tard.
Oui, vers 1955, par là. Mais c'est le texte de juin 1924, c'est-à-dire environ 6 mois avant le début la première tranche de tournage.
On l'écoute.
Il faut, entendez bien le sens profond que je mets dans ces mots, il faut que ce film nous permette d'entrer définitivement dans le temple des arts par la gigantesque porte de l'histoire. Une angoisse indicible m'étreint à la pensée que ma volonté et le don de ma vie même ne sont rien si vous ne m'apportez pas tous un dévouement de toutes les secondes. Nous allons, grâce à vous, revivre la Révolution et l'Empire. La tâche est inouïe. Il faut retrouver en vous la flamme, la folie, la puissance, la maîtrise et l'abnégation des soldats de l'an 2. L'initiative personnelle va compter. Je veux sentir en vous contemplant une houle qui puisse emporter toutes les digues du sens critique, de façon que je ne distingue plus de loin entre vos cœurs et vos bonnets rouges. Rapide, fou, tumultueux, gigantesque, gouailleur, homérique, avec des pauses, des points d'orgue qui rendent les silences plus redoutables, ainsi vous veut la Révolution, cette cavale emballée. Et puis un homme qui la regarde en face, qui la comprend, qui veut s'en servir pour le bien de la France et qui brusquement saute sur elle, la saisit par les rênes et peu à peu la pèse pour en faire le plus miraculeux instrument de gloire. La Révolution et son rire d'agonie, l'Empire et ses ombres géantes, la grande armée et ses soleils, c'est à vous qu'il incombe d'en recréer les immortelles figures. Mes amis, tous les écrans de l'univers vous attendent. À tous, collaborateurs de tous ordres, à tous, premier rôle, second plan, opérateurs, peintres, électriciens, machinistes, à tous, surtout à vous, humbles figurants, qui allez avoir le lourd fardeau de retrouver l'esprit de vos aïeux et de donner par votre unité de cœur le redoutable visage de la France de 1792 à 1815, je demande mieux. J'exige l'oubli total des mesquines considérations personnelles et un dévouement absolu. Ainsi seulement, vous servirez pieusement la cause déjà illustre du plus bel art de l'avenir à travers la plus merveilleuse des leçons de l'histoire.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors après cette proclamation qui mérite bien son nom, oui. On est un peu sans voix.
Oui, oui, c'est vrai, parce que c'est totalement gant, c'est cette voix douce, feutrée, et qui va amener des gens... Je crois que Napoléon avait dit « J'ai reculé les limites de la gloire ». Gans obligeait tout le monde à reculer les limites de ses propres compétences. Et même pour la Restauration, ça a été le même cas. Personne, je crois, dans toute l'équipe et de tous les gens qui ont travaillé sur cette Restauration, n'avait été attelé à une telle tâche et surtout aussi spéciale. Et ce qui est formidable, c'est que ça ne détruisait personne. Par contre, ça nous faisait à chacun, de même qu'à chacun à cette époque pour le tournage, ça fait découvrir à chacun de nouvelles possibilités, de nouveaux potentiels qui ne se seraient peut-être jamais devinés. Et ça, dans cette voix douce qu'on entend, on sent d'abord... On comprend aussi le respect dans lequel il a toujours été, Abel Gans, y compris de la nouvelle vague, qui a été assez tenace sur, nous dirons, l'ancienne génération. Mais Jean Renoir et Abel Gans étaient exemptés, nous dirons, et fortement admirés. Et en même temps, on sent cette autorité qui fait que, voilà, pour paraphraser cette phrase d'Hernani de Victor Hugo, « Je suis une force qui va ». Et la voix qu'on a, c'est exactement ça. Je suis une force qui va. Alors, il peut y avoir des tas de producteurs, des distributeurs qui ne sont pas d'accord, des problèmes sur le tournage, etc. Mais je le veux maintenant et je le fais demain.
Et puis, il y a le lyrisme aussi. Hein,
ah oui, ça, oui.
C'est aussi une marque du film. Enfin.
Ben, c'est-à-dire qu'on a souvent dit qu'Abel Gans était le Victor Hugo du cinéma. Ce lyrisme qui va un peu à l'encontre d'un certain cynisme individualiste à la mode d'aujourd'hui, nous dirons, est quelque chose qui n'a rien d'ampoulé pour l'époque. Certains sont ampoulés à l'époque, hein, mais pas le cas de Gans. Ce qui sauve beaucoup de choses chez Gans, c'est son absolue sincérité et surtout son absolue confiance dans le public. Jamais on ne lui fera faire quelque chose ou jamais lui-même il n'aura une réflexion en se disant « je ne vais pas faire ça parce que le public ne va pas comprendre ». Non. Sur ce point de vue-là, il est exactement sur la même ligne que John Ford en disant qu'à partir du moment où humainement c'est valable, je peux m'autoriser tous les délires formels les plus incroyables, mais ça ne va pas me faire de moi un formaliste. À l'inverse de d'autres réalisateurs qui vont plutôt être laissés emporter par le pittoresque du traitement de l'image. Non, il part, il fait comme en musique, thème et variation. Et du coup, il assume. Et il affiche et il assume pour l'époque beaucoup de choses. Je vous rappelle en effet que le titre du film, c'est pas Napoléon, c'est Napoléon vu par Abel Gans. Donc ça veut dire que presque 30 ans avant qu'un autre grand monsieur comme Federico Fellini insère son propre nom dans le titre de ses films, Fellini Roma, Fellini Satyricon, etc., eh bien il met son nom dans le titre du film à une époque où beaucoup de gens considèrent qu'on descend au cinéma, on n'y monte pas. Surtout dans une France qui est absolument jalonnée, culturellement parlant, par sa littérature. Donc il assume cela. Il assume le fait aussi qu'il va faire une production qui sera à l'échelle internationale et va pouvoir peut-être concurrencer les plus grandes productions hollywoodiennes. Il essaye. Il aura essayé.
Il est allé d'ailleurs aux États-Unis.
Alors oui, il était allé aux États-Unis en 1920. 1982, je crois, il avait rencontré David Ward Griffiths, auquel il vouait une très grande admiration, et il était allé présenter son film qu'il avait tourné en 1919, qui s'appelait J'accuse, qui est le premier, le J'accuse muet, où l'idée centrale, c'est que les morts de la guerre de 14 se réveillent et vont dans leur village pour savoir si leurs morts ont servi à quelque chose. C'est vous dire déjà ce lyrisme assumé. Et il est allé le présenter aux États-Unis. Il a rencontré David Ward Griffiths. Il a été d'ailleurs un petit peu affolé parce que quand la projection a eu lieu, Griffiths n'est pas allé le voir à la fin de la projection. Il s'est exfiltré. Donc pendant 2 jours, Gans ne savait pas trop ce que ce grand homme qu'il admirait beaucoup allait dire. Puis il a reçu un coup de téléphone où il a été contacté. Et Griffiths lui a dit alors d'abord, parce que vous savez peut-être que Griffiths avec Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et Mary Pickford, ce sont eux qui ont fondé les artistes associés, l'AUA. Et il a reçu un coup de fil de Griffiths qui a dit « Bon, bah, d'abord, j'ai donné 48 heures de congé à tous mes ouvriers des studios pour qu'ils aillent voir votre film et je vais distribuer votre film aux États-Unis. » Et le J'accuse de 19 a été distribué par Griffiths, l'auteur d'Intolérance, de Naissance d'une nation, a été distribué aux États-Unis. Et Gans, bien entendu, espérait beaucoup de la sortie aux États-Unis du Napoléon, mais qui a été ensuite massacré pour des raisons commerciales, nous dirons, mais c'est une autre chose.
Oui, c'est une longue histoire. Alors, on va en arriver à votre travail, et d'abord à la situation que vous rencontrez au moment où la Cinémathèque française fait appel à vous, donc en 2008, je crois.
Oui, alors, je pourrais presque paraphraser la phrase de Cocteau disant que tout succès est un malentendu, parce que moi, à la base, je suis réalisateur et chercheur. Je dis d'ailleurs humblement que le but de ma vie n'a jamais été de restaurer le Napoléon d'Abel Gance. En 2007, à ce moment-là, je sors d'une dizaine d'années où j'ai réalisé une douzaine de documentaires, moyens-métrages de fiction, etc. Donc, mais il s'est trouvé que, arrivant à Paris dans les années 80, vous savez que Paris est une succession de juxtapositions de chapelles. Et j'ai été adopté par la chapelle Gance. Et la chapelle Gans, à cette époque-là, c'est Clarisse Gans, sa fille, qui est toujours parmi nous, qui était avec nous d'ailleurs à Cannes et à la scène musicale. Claude Lafaille, qui était son exécuteur testamentaire et qui a beaucoup apporté pour cette restauration. Et puis aussi une femme dont on ne parle jamais, qui était Dagmar Bolin, qui a été l'assistante de Gans sur 14 de ses films, dont 4 qui n'ont pas été réalisés. Et ces gens-là m'ont adopté. Donc, au fur et à mesure, dans ma vie, si vous préférez, régulièrement, l'œuvre de Gans est venue croiser ma route. J'ai fait mes travaux universitaires sur les inventions d'Abel Gans, etc. Et puis, bon, ensuite, j'ai commencé mon activité de réalisateur. Mais on me connaissait comme étant, bon, ben voilà, quelqu'un qui connaissait Gans. Et donc, en 2008... je ne fais pas bien entendu l'historique du film parce qu'il a été bien entendu tronqué, remanié par Gans lui-même plusieurs fois, etc. Bref, la situation c'est qu'en 2007, il existe plus de 22 versions différentes du film. Il y a eu 5 restaurations, 3 versions par Gans, plus les distributeurs qui charcutent dans tous les sens. Du coup, la nouvelle directrice de collection, qui était Camille Blovelins, à ce moment-là, la Cinémathèque française, se retourne vers sa direction en disant « Écoutez, si on me demande à l'étranger une copie de référence pour une projection du Napoléon, laquelle ?» Donc, moi, je ne peux pas me consacrer à ça parce que sinon, je ne peux plus occuper les fonctions de mon poste. Il faut qu'on détermine un expert. Et ce fut sur moi que c'est tombé. Pourquoi ? Parce que je connaissais les gens de Gans. J'avais tourné aussi avec toute la bande un documentaire qui s'appelle « À l'ombre des grands chênes » à Abel Gans, qui a d'ailleurs été projeté dans le cycle de la rétrospective Gans à la Cinémathèque française en 2005 avec Robert Hossein, Claude Lelouch, Pierre Mondy aussi, Clarisse Gans, bien sûr, et Philippe Hainaut. Et à ce moment-là, c'était Laurent Manoni qui était directeur, il est toujours d'ailleurs directeur technique du patrimoine. Plus tard, ensuite, ça a été repris par Joël Der, qui est directeur du patrimoine de la Cinémathèque française. Il m'a tout simplement demandé, est-ce que vous pourriez mettre entre parenthèses votre activité de réalisateur, parce que j'avais déjà mon prochain documentaire qui était en route, hein, à ce moment-là, pendant, nous dirons, 3 mois. histoire de faire un inventaire, quoi, pour nous dire ce qu'il y a dans les boîtes, et puis qu'on ait la réponse à la question, quelle version. Et alors, je savais par Claude Pinoteau, parce que Claude Pinoteau a été le dernier assistant de Gans sur Bonaparte et la Révolution, grâce à Claude Lelouch. Et Claude Pinoteau m'avait dit, faites attention, Georges, parce qu'avec Gans, vous mettez le doigt, le bras y passe. Mais enfin, allez-y quand même, parce que de toute manière, ça va être dingue. Et ça va être fou. Alors, moi, j'avais répondu à Laurent Manoni, écoutez, je pense qu'il faut quand même être prudent. Avec Gans, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Il vaudrait mieux prévoir 6 mois. Et puis, ça a duré 14 ans. C'est-à-dire que, d'inventaire, nous avons glissé en une expertise. D'expertise, nous avons glissé en découverte. Puisque nous avions commencé par 300 boîtes du fonds de la Cinémathèque française, c'était déjà pas mal, avec Laure Marchaud, bien entendu, qui a été, pendant ses 14 ans, une assistante monteuse extraordinaire. Heureusement qu'elle a été avec moi. Et puis ensuite, les collections du CNC ont tiré un petit peu la manche de la Cinémathèque française en disant, ben, puisque vous avez un expert, est-ce qu'il ne pourrait pas lui aussi nous dire ce qu'il y a dans nos boîtes? Parce que nous non plus, nous n'y comprenons rien. Donc, de 300 boîtes, on est passé à 600.
Donc, les boîtes, ce sont ces fameuses bobines que j'ai vues sur les photos.
C'est les bobines, c'est ça.
Des boîtes rondes.
C'est des boîtes rondes de 300 mètres, de 600 mètres, de 120 mètres ou 60 mètres, de 35 mm. Donc, puisqu'il faut rappeler à toute cette jeune génération qui n'a, pour ainsi dire, pas vu de film, qu'il n'a jamais existé de vidéo des frères Lumière. C'est-à-dire que, et c'est normal qu'ils pensent ça d'ailleurs, c'est-à-dire que jusque dans les années 2000, on travaillait sur de l'argentique, c'était de la pellicule 35 mm. Donc de 300 boîtes, on est passé à 600. Et puis environ une quinzaine de jours avant la remise de mon premier rapport d'expertise, complètement fortuitement, on a d'abord découvert un lot de 179 boîtes. Et puis ensuite, derrière, ça a été à double détente, une bombe à fragmentation. Et derrière ce lot, on a découvert aussi 202 boîtes qui avaient été caché par Claude Lafaille pour leur éviter la destruction en son temps et qui avait été à la Cinémathèque de Toulouse. Donc en tout, on a découvert 400 boîtes qui n'avaient servi à aucune des restaurations précédentes puisque le film avait déjà été par 5 fois par le passé restauré en argentique. Et en tout, ma monteuse et moi, nous avons expertisé à travers le monde environ 1 000 000 de boîtes. Nous avons expertisé 300 km de pellicule et non pas 100, comme certaines fois je le lis dans certaines choses. Et puis, d'expertise, on a glissé vers une reconstruction. Si vous voulez, je peux vous expliquer pourquoi. Parce que sinon, tout le monde se demande, mais pourquoi ils n'ont pas capitalisé sur la dernière restauration, très bonne d'ailleurs, de Kevin Brownlow en 2000. Ben, nous aussi, on pensait que si jamais on avait à faire une restauration, on allait capitaliser sur la dernière. Ça paraît logique. Or, étant donné que ça s'est passé une nuit de juillet 2010, je m'en souviens très bien, c'était chez moi, voilà. Claude Lafaille, d'ailleurs, cette nuit-là, dormait chez moi dans la chambre à côté. Et comme depuis 2 ans, nous filmions sur la table de montage avec Laure Marchaud les bobines, nous avions plus de 400 captures vidéo. Ben, j'ai pu faire quelque chose qu'aucun de mes illustres prédécesseurs, de Henri Langlois à Marie Epstein, en passant par Bambi Ballard et Kevin Brownlow, n'aurait pu faire, c'est-à-dire allumer mon ordinateur et ouvrir 6 fichiers QuickTime en même temps. Bien sûr, c'était pas possible physiquement. Autrefois, sur une table de montage, vous aviez 2 plateaux et encore, il fallait aller en avant, aller en arrière. Vous alliez abîmer les originaux, vous pouviez pas faire une comparaison, donc j'ouvre. Les six QuickTime, je me souviens, c'était sur l'assassinat de Marat avec Antonin Artaud dans le rôle de Marat. Et puis tout simplement, ben, dans la nuit, j'ai pratiqué la voiture balai, c'est-à-dire que j'ai avancé plan après plan. Et là, je me suis d'abord aperçu qu'il y avait 2 négatifs originaux source. On va dire ça comme ça. Ça ne m'a pas trop affolé parce qu'à cette époque-là, pour éviter l'usure précoce des négatifs, au moment du tirage des copies positives, puisque je rappelle que ce ne sont pas des vidéos, on tirait une copie positive à partir d'un négatif, on établissait 2 négatifs originaux. Mais ces négatifs étaient très voisins. C'est-à-dire que dans le premier, on mettait la première prise. Dans le second, on mettait la deuxième prise, qui était pour ainsi dire équivalente. On se faisait au moins 2 prises de bonnes, quoi, dans l'ensemble. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que dans la nuit, je progressais dans ma comparaison et que j'arrivais à distinguer quelle était l'origine de quel plan envers quel négatif, je me suis aperçu que là encore, le Napoléon d'Abel Gance se distinguait déjà à son époque, au sens que les deux négatifs originaux avaient des choix artistiques et dramaturgiques différents. Sur l'un, vous y aviez des travelling, l'autre, c'était un plan fixe. Sur un, vous aviez jusqu'à 7 à 9 surimpressions, sur l'autre, vous n'en aviez que 3. Bref, j'exagère à peine en disant qu'à la limite, ce n'étaient pas les mêmes films, bien qu'ils avaient des scènes équivalentes. Et c'est là que le sol s'est dérobé un petit peu sous nos pieds, parce que ça voulait dire que tous mes illustres prédécesseurs, en toute bonne foi, avaient indistinctement mélangé dans leur restauration les deux négatifs originaux. Donc ça voulait dire qu'il fallait tout reprendre à zéro, en sachant bien entendu comme hypothèse de base, pas comme hypothèse de base, mais comme donnée de base, que bien entendu, sinon ça serait trop facile, les négatifs originaux avaient disparu depuis très longtemps.
Oui, des négatifs originaux, vous n'en avez pratiquement plus.
Oui. Sur 400 km de pellicule qui a été tournée, il en reste environ 200 mètres et encore remonté en 1935.
C'est ça. Donc là, vous vous trouvez en fait face à deux films. Est-ce qu'on peut dire, pour simplifier, que ça correspond aux deux grandes versions historiques,
oui,
qu'on appelle...
Oui, la version opéra, qui est dite la version courte, on l'appelle opéra parce qu'elle a été présentée le 7 avril 1927 à l'Opéra de Paris, la version courte qui ne faisait qu'aux alentours de 4 heures, mmh. Voilà.
Version courte.
Et puis, un mois plus tard, dans un cinéma qui était en travaux à ce moment-là, qui était le cinéma Apollo, il a présenté, mais pas au public, mais à la presse, d'abord et aux critiques et ensuite aux distributeurs. En deux jours, il a présenté une première version longue qui faisait 9h30 et qui, nous dirons, on va appeler la version Apollo. Je dis tout de suite que cette version Apollo n'a jamais été exploitée. C'est une projection test. En revanche, ce que j'ai découvert, et c'est ça qui a ouvert les portes de ce chantier énorme, c'est qu'on pensait que la version longue, c'était ni plus ni moins la version courte avec des épisodes en plus, ce qui est très logique. Oui. Mais la logique ne fait pas partie du monde de Gance. Tout au moins, ce n'est pas la logique habituelle. Il s'est avéré que, en fait, c'est à partir du négatif Apollo seul et spécifique à cette version que Gance a resserré son montage à une grande version. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle s'appelle, la grande version, l'appellation est substantivée, à une grande version d'environ 7 heures qu'il envoyait à la MGM qui était chargée d'une certaine distribution internationale. Et donc ça veut dire qu'il y a, simultanément, il y avait la version courte opéra d'environ 4 heures et souvent en plusieurs parties, en plusieurs épisodes qu'il avait déjà prévus, la grande version qui elle faisait en tout 7 heures environ. Voilà. Et du coup, ça, c'est pour ça qu'il y a le négatif opéra, le négatif Apollo, et les deux avaient été mélangés.
Voilà, alors la séparation de finalement ces deux, de ce mélange, enfin,
oui,
pour revenir aux deux constituants premiers, ça a été une grande partie de votre travail. Et pour qu'on voit à quel point c'était important pour Abel Gance, nous allons écouter une intervention d'Abel Gance que vous allez peut-être vouloir nous situer un petit peu.
Ah, oui.
Parce qu'elle est, elle dit à quel point il peut réagir et puis en même temps, elle a parfois été mal comprise.
Oui, elle dit tout. Alors, il faut savoir que cette distinction opéra-Apollo, nous l'avons faite d'abord avec ma monteuse Laure Marchaud, nous l'avons faite par comparaison, par empirisme. On a tremblé pendant 4 ans à la prochaine boîte qu'on ouvrait, au cas où l'intérieur de cette boîte allait désavouer cette observation. Et puis plus tard, on a trouvé des preuves scientifiques. Mais il se trouve que Tom Luddy, le regretté Tom Luddy qui nous a quittés malheureusement il y a 2 ans, qui est cofondateur du festival de Telluride dans le Colorado aux USA, c'est dans ce festival en 1979 qu'a été présentée la première restauration de Kevin Brownlow. Et Gance, à ce moment-là, a presque 90 ans, il a pris l'avion et il a été présent. Et toute sa présence au festival, où j'ai été moi-même ensuite invité à refaire la conférence sur cette même scène du Castro Theater, Gance est venu et toute sa visite a été couverte. Et puis, la veille de la projection de la restauration, il y a dans ce théâtre la projection d'un documentaire sur Gance. Et dans ce documentaire, il y a des extraits du Napoléon de 27. Mais alors, de quelle version? Je ne pourrais pas vous dire laquelle des 22 versions, hein, en quelque sorte. Et alors que tout le monde est là pour honorer Gans, Gans sur scène, à ce moment-là, pique une colère froide. Alors attention, il n'est pas en train de parler de la restauration de Kevin, qu'il va en vérité découvrir le lendemain. Mais c'est parce qu'il vient de voir des extraits de son film, et il va prendre une colère froide, et dans la salle, tout le monde écoute avec respect, parce que c'est un grand homme, enfin tout le monde pense qu'il est en train de nous faire un coup de calgon, quoi, si vous préférez. Alors ça dure juste 2 minutes, c'est Gans sur scène qui prend sa colère, qui est traduite par Annette Hinsdorf, qui est toujours d'ailleurs au festival de Telluride. Et puis ben, nous allons écouter ça, puisque je viens de vous parler du négatif Apollo et du négatif Opéra.
Allegre FM 93.1.
C'est comme de la musique pour moi, le cinéma. S'il manque 4 images à un plan, je le recommencerai 10 fois. S'il y en a 4 de moins, c'est la même chose. Comme en musique, c'est d'une précision mathématique. Et ce qui a fait probablement mon succès dans mes films, c'est la précision de la mise en scène, la précision des images. Et chaque plan à 2 images près, je le rejetais.
If I've had this little revolt in front of what I've just seen, this mishmash, which I guess for you, you wouldn't realize that it's a massacre because you haven't seen the films in their entirety. It's because for me, cinema is so much like music. It's like music in the precision of the shots that is necessary. If I feel that there are 4 little moments missing from a shot, I'll do it over 10 times because this mathematical precision is necessary.
Imaginez 10 mesures de Brahms, 3 de Debussy, 40 d'un mauvais musicien de Paris.
Imagine 10 measures of Brahms, 3 of Debussy, and then 40 by some terrible composer from Paris.
Et voilà le résultat. C'est que le musicien, s'il s'appelle Wagner, il est confondu avec un musicien de 10e ordre des boulevards de Paris. Et puis, il dit, c'est ça ma musique, c'est pas possible. Ou c'est moi qui suis fou, ou l'orchestre s'est trompé. Et ben voilà l'impression que j'ai.
And the result is, imagine mixing Wagner with the most 10th-rate boulevard musician of Paris, and the two are put together, and one doesn't know which is the other.
Voilà, donc là, on a bien le commentaire de ce...
Quand Tom lui dit, m'a envoyé ces images, et qu'on a vu ça avec Laure Marchaud, on s'est dit, c'est fou. Il est en train de dire exactement ce qu'on est en train de trouver 15 ans ou 20 ans plus tard. Et personne ne le croit dans la salle. Et alors, à partir de ce moment-là, nous, on connaissait les restaurations antérieures par cœur. On a pris n'importe quelle restauration antérieure. On a regardé les plans. Et alors, ce plan-là, c'est Debussy. Celui-là, c'est Debussy. Celui-là, c'est Brahms. Celui-là, c'est Apollo. Celui-là, c'est... Ah, celui-là, il commence en opéra, mais il termine en Apollo. C'était exactement ça. Donc, il avait déjà tout dit. Et c'est vrai, il a monté ce film comme une musique de lumière, puisqu'il disait le cinéma, c'est la musique de lumière. Et il fallait appliquer à la lettre, et c'est ce qu'on a fait pour la restauration. C'est pour ça qu'elle a été coûteuse, complexe. Mais la Cinémathèque française a eu les épaules et le courage suffisant pour le faire. Il a fallu respecter à la lettre cette approche musicale du cinéma. C'est-à-dire qu'une image est une note. On ne l'enlève pas. On n'est pas dans du descriptif. Aucun chef d'orchestre ne tolérerait lors d'un enregistrement que d'un seul coup une clarinette ne fasse pas la note qu'il faut, ou saute une mesure, ou fasse un si bémol à la place d'un si naturel. Et ben, pourquoi ne pas avoir cette même exigence pour le cinéma, qui certes n'a que 130 ans? Et ben, pour Gans, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça que nous avons parcouru en archives, et certaines fois sur place, une grande partie du monde pour retrouver certaines fois 4-5 images qui manquait à l'intérieur d'un plan, parce que le plan chez Gans, c'est comme une ligne mélodique. C'est une musique de lumière. Et il avait déjà tout dit.
À certains moments du film, on a l'impression qu'il monte presque image par image.
Ah oui.
On a un bombardement comme ça, visuel.
Ça fait partie encore aussi des légendes qui sont devenues vraies. Parce que, il disait, il y a certains passages, j'ai monté certains passages comme une musique de lumière en plaçant les images comme un compositeur place les notes sur une portée. Alors, quand il disait ça, on disait, bon, ça va, d'accord, on sait très bien que tu as été un des plus grands réalisateurs du muet avec Eisenstein et Griffiths, mais enfin, il faudrait quand même pas exagérer, etc. Et puis, il se trouve que sur le passage de la Marseillaise, des Cordeliers, nous avons retrouvé un des très rares morceaux subsistants de négatif originel avec la numérotation de 1927. Car je rappelle que les images 35 mm, vous avez l'image, mais vous avez une bordure après les perforations sur le côté entre la bordure du film et les perfos. C'est ce que nous appelons les manchettes. Et sur ces manchettes, c'est là qu'inscrivaient les monteuses négatives les numéros des plans, parce qu'il leur fallait bien des indications. Et quand nous avons retrouvé le moment justement où le montage s'accélère et où vous avez jusqu'à un plan qui est égal à simplement une image, eh ben, la légende était vraie. C'est-à-dire que là, on a l'image 522, on a l'image 523, 524, et bien entendu, la numérotation n'est pas chronologique. D'un seul coup, vous avez la 228, vous avez la 134, etc. Donc la légende était vraie. Et l'autre légende, et ça a été bouleversant pour nous, qu'on a découvert, j'avoue que, ayant eu le privilège de rencontrer Marie Epstein et le réalisateur Jean Dréville, qui était un grand admirateur d'Abel Gance, eux-mêmes m'avaient assuré, puisqu'ils avaient assisté à la première à l'Opéra de Paris en avril le 27, ils m'avaient assuré, mais vous savez, quand il y avait la présentation de la Marseillaise au Club des Cordeliers, on pouvait se lever dans la salle et chanter, pas en synchrone avec le film, puisqu'il était muet, mais on pouvait chanter avec les acteurs qui étaient là. Là, je dois avouer aussi que ma jeunesse était sceptique. Je les aimais bien, mais on se disait, bon voilà, ils enjolivent un peu une gloire passée ou des souvenirs de jeunesse exaltés, etc. Mais quand le jour où, dans notre salle de montage avec ma monteuse, on a commencé à distiller, à distinguer quel était le bon plan qui était au bon endroit, on a commencé à s'apercevoir sur l'écran que, mais on pouvait suivre les labiales. Et donc, tout le fort de Saint-Cyr a dû nous sembler, nous prendre pour des fous, parce que je crois que en une journée, dans notre salle de montage, elle et moi, nous avons donc dû chanter peut-être 12 fois la Marseillaise pour essayer de vérifier la synchronicité. Et la synchronicité était vraie, c'est-à-dire qu'à travers un film muet, vous connaissant les paroles de la Marseillaise, c'est vous qui rentrez dans le film et qui apportez les paroles au labial de ces gens qui sont sur l'image. Et c'est à travers un chant que vous assistez dans cette scène à l'émulsion, y compris dans ces plans très très rapides que vous avez. Vous avez l'émulsion en partant d'une agglomération de gens juxtaposés, différents. Vous assistez à l'émulsion et à la création d'un peuple. Ça, c'est un des moments les plus fous du film, un des plus fous de notre travail, parce que dans notre petite salle de montage, qui n'était pas plus grande que le studio dans lequel nous sommes aujourd'hui, ben, une légende prenait corps. Voilà, ça a été un souvenir extraordinaire, ce moment-là, cette redécouverte.
Ça, c'est peut-être le moment le plus magique. Enfin, oui. Il y en a sûrement eu d'autres, mais ça doit être extraordinaire voir la renaissance de...
Un émerveillement. Émerveillement. Beaucoup de travail, très complexe, beaucoup de doutes, beaucoup de... Bien sûr, mais il existe un mystère Napoléon. Claude Lelouch disait, de toute manière, dans toute grande œuvre, il y a une part d'irrationnel. Il faut l'accepter. Je ne prétends pas, au bout de 14 ans de travail, d'avoir percé le mystère Napoléon. Mais par contre, ce qui a été absolument extraordinaire, ça a été aux premières loges des éléments, de voir comment il crée l'émotion. J'ai toujours pas compris comment ça marche. Et le mystère n'est d'autant plus que encore plus épais. Et je n'ai encore d'autant plus que de respect pour Abel Gance, d'abord en tant que visionnaire. N'oublions pas que Maurice Maeterlinck disait que Gance était le plus grand visionnaire du XXe siècle, mais aussi en tant que technicien réalisateur. C'est-à-dire comment amener des techniciens à faire que des choses dont ils n'ont pas l'habitude. Il a été obligé de demander à ses techniciens de construire des appareils, de construire des outils, des méthodes de tournage adaptées à ses visions en 1925. Et force est de reconnaître que nous, De 2008 à 2022, nous avons été obligés de demander au laboratoire Éclair de créer des outils, soit matériels, soit numériques, pour restaurer le cas Napoléon qui ne s'adaptait à aucun système industrialisable. Les 600 000 images aujourd'hui qui composent le film restauré ont toutes été restaurées à la main, en faisant de la haute couture. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc l'émerveillement et certaines fois le ravissement, oui, surtout quand on le projette en public.
Voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cet émerveillement qui a été le vôtre, il a pu récemment être partagé par le public, notamment à la scène musicale, mais aussi à la Cinémathèque française, et à vrai dire à peu près partout, où tout à coup on voit ces scènes et où les gens se sentent tenus d'applaudir et de participer, et ils ont envie de chanter, effectivement. Eux aussi, le film était extraordinairement innovant, mais tout ce qui était innovant il y a 100 ans ne semble pas forcément innovant aujourd'hui. Or, là, c'est bien le cas.
Oui.
Là, on a des choses qui nous stupéfient. Moi, je pense à des images qui font penser à du jeu vidéo dans les séquences de Toulon. Enfin, c'est d'une modernité qui ne va pas vieillir. Alors, il y a une caractéristique du film unique dont il faut qu'on parle maintenant, de peur d'être débordé par le temps, c'est le triptyque, donc c'est ce fameux triptyque. Donc initialement, il y en avait deux. Aujourd'hui, dans ce qu'on a, il y en a un qui reste à la fin du film.
Oui.
Peut-être vous voulez nous en dire un mot et puis situer plutôt la petite illustration sonore qui est tirée d'un de vos documentaires.
Alors, Gans, le film dure 7 heures, les 20 dernières minutes sont écrites, ou filmées si vous préférez, en triple écran. Le triple écran, c'est la grande invention de Gans à ce moment-là, qu'il va appeler plus tard la polyvision. Je pense, comme lui d'ailleurs, que l'invention de la polyvision ou du triple écran est une révolution dans le langage cinématographique, comme au Moyen-Âge, la découverte de la polyphonie. C'est-à-dire que, attention, il n'a pas fait ce qu'on appelle du split screen, c'est-à-dire il n'a pas fait le partage de l'image en plusieurs parties. C'est simplement que pendant 6h30, vous avez vu un film sur un écran, et 20 minutes avant la fin, vous avez un autre écran qui apparaît à gauche, un autre écran qui apparaît à droite. Et alors au début, il l'utilise comme plus tard l'utilisera le Cinérama, lancé en 52-54, je crois, par les Américains. Vous avez trois caméras pour la prise de vue, trois projecteurs pour la projection. Donc au début, il l'utilise simplement comme un très large panoramique. Mais très très vite, il va utiliser ces trois écrans comme trois espaces-temps différents. Et donc, il va complètement exploser l'aspect représentatif. La caméra n'est plus là pour enregistrer un acte qui se trouve devant elle. Non, il y a un défilement vertical. Nous voyons, encore aujourd'hui, quand on voit un film, nous assistons à un défilement vertical. Le plan que vous voyez sur l'écran, il prend la place du plan qui était quelques secondes avant. Donc le défilement est vertical. Quand vous passez en triple écran, là, c'est différent. Gans multiplie d'abord par 3 le défilement vertical, et en plus, il vous permet de faire une association horizontale, vous, dans le sens que vous voulez, de l'association des 3 images. Donc, on est en pleine polyphonie, et on est surtout en pleine sensualité. Cette polyphonie, je crois que les 20 minutes du Napoléon sont restées uniques dans l'histoire du cinéma mondial. Et la restauration aussi des triptyques a été quelque chose d'extrêmement complexe techniquement, bien entendu, mais a été quelque chose, il faut le dire, de divin. Pour Gans, le cinéma était une arme d'élévation massive. Comme pour Griffith, c'était une approche métaphysique du cinéma. Et donc, quand j'ai tourné en 2005 à l'ombre des grands chênes, j'ai gardé, bien entendu, les rushs. Ce que vous allez entendre ne fait pas partie du documentaire. Mais je vous ai amené juste ce petit montage parce que, comme j'avais devant moi Claude Lelouch, Robert Hossein, Clarisse Gans, qui avait été script dans les derniers films de son père, je lui ai dit, si vous avez la possibilité de tourner en triptyque, qu'est-ce que ça vous donne? Alors c'est pour ça que vous allez entendre juste un extrait. Vous avez d'abord Claude Lelouch qui exprime son impression, Robert Hossein qui donne la sienne, on revient sur Claude Lelouch, et puis c'est Clarisse Gans qui, d'une certaine manière, conclut.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Le triptyque, c'est formidable. C'est formidable, mais quelque part, j'ai trouvé le cinérama génial. Parce que le cinérama reprenait le principe de projection des trois écrans,
oui,
avec une seule et même image. Ce qui fait que la concentration peut rester.
Vous rigolez, vous. Quel cinérama? Si c'est cinérama, je n'ai pas besoin de trois écrans. Cinérama, je peux vous faire un truc colossal, immense, prodigieux et tout ça, où on rentre même dedans. Non, moi je voudrais trois écrans avec trois actions qui se passent sur chacun et qui ne sont pas obligatoirement la même chose. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait.
Oh, bon, non, ça serait formidable de voir dans la même situation des points de vue complètement différents. À partir de trois écrans.
Et on peut aller dans ces cas-là, on peut pousser la chose jusqu'à mettre des époques différentes à chaque trois.
C'est vrai que le triptyque est une révolution. C'est une révolution, et surtout pour le souffle.
Oui.
C'est-à-dire que l'avantage du triptyque, ça permet de tout voir et de rien voir. C'est quand vous avez trois trucs à regarder, vous ne voyez plus rien. Je veux dire que ce qu'il y a de formidable au moment où arrive le triptyque, c'est qu'on est dans un état émotionnel tel qu'à ce moment-là, c'est le souffle qui parle, c'est l'inconscient qui parle, c'est tout ce que notre intelligence ne peut plus analyser, et on est porté. On est porté comme dans une tempête.
Dans la mesure où il fait éclater tout ça, ces images ne s'adressent plus vraiment aux yeux, elles s'adressent à l'esprit. Donc notre esprit cavalant beaucoup plus vite que nos yeux tout de même, ça devient admissible. C'est pas forcément explicable, mais ça devient admissible.
C'est-à-dire qu'on arrive directement à l'idée spirituelle, si on veut faire à l'esprit, sans passer par le cadre de la description d'une réalité.
Voilà, il n'y a plus de réalité. Elle est éclatée dans un sens.
Nous sommes sur Aligre FM dans La vie est un roman avec Georges Mourier. Alors, ce qu'on vient d'entendre illustre parfaitement ce que vous disiez, c'est-à-dire peut être l'explication, ou en tout cas une clé de compréhension de nos sensations quand on est face à ce triptyque notamment, mais à d'autres moments du film aussi, parce que l'esprit en effet est dépassé, et que par ailleurs, deux spectateurs différents ne vont pas nécessairement voir la même chose, puisque chacun fait comme il peut pour essayer de capturer ce qu'il peut de l'abondance qui lui est proposée.
Exactement, et c'est ça l'extraordinaire modernité du cinéma de Gans, parce qu'il s'adapte à la sensibilité de chaque spectateur. Claude Lelouch, à un autre endroit de cette interview, dit qu'il a trouvé le moyen de s'adresser directement au cœur sans passer par l'intellect. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense en effet que Claude Lelouch, que Abel Gans, comme Jean Renoir, a fait partie des épargnés de la nouvelle vague qui était très critique vis-à-vis des anciens, si l'on peut dire, qui avaient soi-disant un cinéma de qualité. Non, ils avaient compris eux-mêmes, sans faire de jugement de valeur envers Marcel Carné ou André Cayatte, qui étaient de très grands cinéastes, mais ils avaient compris que c'était des personnes qui, avant tout, travaillaient sur l'affect et sur les sens.
Alors, ceci étant dit, vous n'avez pas toujours des manchettes. Comment vous avez fait dans cet océan de bobines? Je vous ai entendu une fois prononcer la métaphore de la pierre de Rosette.
Alors, oui, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que jusqu'à notre restauration, on ne savait pas vraiment dans quel sens même étaient les scènes, en quelque sorte. Et il se trouve que, d'une part, Claude Lafaille avait sauvé toutes les archives privées d'Abel Gans à sa mort en 81. Et Claude Lafaille a fait don de ses archives, je dis bien ses dons, il n'a jamais rien vendu, à la BNF, aux arts du spectacle. Et ces archives n'avaient jamais été utilisées pour les restaurations antérieures. En même temps, à la Cinémathèque française, il y avait un énorme fonds papier qui avait été acheté par Gans, par Langlois à Gans en 61, puis il y avait eu des dépôts en 65 de la part de Gans, mais toutes ces archives n'avaient pas été triées, classifiées. Et puis Gans était du genre, au lieu d'envoyer un télégramme de trois phrases, à faire une lettre de trois pages. Et donc ça, c'est Delphine Varin, du service de documentation archives de la Cinémathèque, qui s'est attelée à la classification de ce fonds. Elle a commencé en 2002, elle est terminée en 2010. Ça vous donne une petite idée. Et dans ces archives, nous avons trouvé ce que nous appelons la pierre de Rosette, c'est-à-dire que nous avons trouvé ce que nous appelons le séquencier Epstein, c'est-à-dire la succession des scènes et leur métrage dans la version Apollo de 9h30. Donc déjà, on avait la succession des scènes. Alors on avait la pierre de Rosette d'un côté, on avait le mystère de la grande pyramide qui était découvert parce qu'il y avait Apollo d'un côté et Opéra de l'autre, on est en pleine égyptologie, et puis heureusement il y a eu aussi dans la Cinémathèque française des documents qui me permettaient de savoir qu'est-ce que Gans avait coupé dans les 9h30 pour arriver à 7h. À partir du moment où l'on n'utilisait que ça, alors déjà c'était une grande, indication. Ensuite, ça a été la chasse au numéro de manchette, oui, c'est vrai, parce que toutes les copies en étant tirées n'avaient pas forcément refotographié les informations dans les manchettes. Donc, je suis arrivé certaines fois à des cas assez fous, par exemple, tel plan était très correct et utilisable dans la copie de Copenhague, mais la copie de Copenhague n'avait pas les recopiées quand elle avait été tirée à l'époque, elle n'avait pas recopié les informations en manchette. Par contre, la copie de Rome, qui avait été une sauvegarde, une copie positive détruite depuis elle, dont l'image était absolument inexploitable parce qu'elle était vraiment trop moche, elle, par contre, elle avait gardé le numéro inscrit. Et donc, régulièrement, j'inscrivais dans le montage en basse définition que je faisais pour le laboratoire éclair, une sorte de patron, si vous préférez, en basse définition, j'inscrivais le numéro du plan et dans quel élément il avait été trouvé ce numéro. Et c'est ça qui nous a permis de reconstruire. C'est pour ça que Costa Gavras, ça a été vraiment une très grande fierté, un très grand honneur pour moi de réaliser ces 14 ans de travail sous sa présidence, car il a été d'un soutien, d'une loyauté absolument extraordinaire. C'est pour ça que Costa Gavras a utilisé le terme « reconstruit ». En effet. Et puis ensuite, ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est extraordinaire. On a eu ensuite des techniciens de haut vol chez Éclair pour homogénéiser les textures différentes. Parce que vous doutez bien que les images de la fin d'un plan que je trouvais à Copenhague étaient d'une texture différente de celle que j'avais trouvée à Belgrade, qui elle-même n'était pas de la même génération que la copie qui venait du musée du MoMA de New York. Et il fallait qu'il y ait, sans qu'on ait une image numérique, il fallait qu'on garde la matière de l'image cinématographique et essayer de faire en sorte de ne pas avoir un film Frankenstein où à l'intérieur d'un plan, on verrait les agrafes, on verrait les cicatrices. Et ça a été un travail absolument de haut vol. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail cousu-main, c'est de la haute couture.
C'est certain. Et pour qu'on comprenne pourquoi il y avait toutes ces copies, vous dites à Rome ou dans différentes villes en Corse, vous en avez trouvé un peu partout, c'est que ce sont justement pas des originaux, mais ce sont des copies d'exploitation. Et en fait, les formes d'exploitation du film ont été multiples, variées. Je vous ai même entendu parler de cinéma à domicile qui n'avait pas la même qualité.
Oui, le pâté bébé, oui, voilà. En effet.
Donc,
oui.
Toutes sortes de formats. Donc, vous êtes trouvé dans une jungle de formats, mais tantôt vous trouviez l'information.
Oui.
Tantôt, vous trouviez l'image.
L'image, c'est ça.
Et en arrivant finalement à cartographier tout cet espace extrêmement abstrait. Vous avez fait un travail qui est à la fois très abstrait et très logique, et d'autre part très physique, puisque vous étiez confronté à la réalité de ces supports qui, eux, étaient ce qu'ils étaient.
Et surtout, très important, ça m'est venu du travail que j'avais fait avec Bambi Ballard, parce que j'avais travaillé avec Bambi Ballard à la fin des années 80, et Bambi Ballard a fait la quatrième restauration, présentant en 92 sous l'Arche de la Défense. Et Bambi Ballard avait l'habitude de rédiger ce qu'elle appelait des per memoriam, c'est-à-dire pas après moi le déluge, plus tard il y aura sûrement quelqu'un qui va à nouveau se pencher sur le Napoléon. Et je considère que, sans doute, dans 20 ans, quelqu'un encore se penchera sur Napoléon, parce que, pour paraphraser Gans, c'est une cathédrale de lumière et une cathédrale n'est jamais totalement terminée. Et je dois vous dire que pour chaque choix dans ma restauration, pour chaque colure, j'ai rédigé un document qui explique et qui exprime pour quelles raisons patrimoniales et en fonction de quelle observation scientifique et quel élément de référence, j'ai considéré que la coupe était ici et pas là. Donc, toute cette reconstruction est argumentée. Attention, c'est pas donc le Napoléon vu par Abel Gans remonté par Georges Mourier. Je peux presque dire qu'il n'y a pas une seule coupe dans ces 7 heures de restauration qui soit de moi. Elles sont toutes argumentées au mieux des éléments actuellement disponibles.
Ce qui répond implicitement à ma question implicite de tout à l'heure sur l'ultime reconstruction ou restauration. Vous dites en fait qu'on ne peut pas être certain de cela. Vous affirmez même que vous êtes certain du contraire.
Ah, bien entendu. Bah, d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas retrouvé assez d'éléments suffisants pour reconstruire, par exemple, le triptyque de la double tempête. Qui a été reconstruit par Jean Dréville en 1985, mais de mémoire, pas avec des éléments scientifiques. J'ai beaucoup de respect pour Jean Dréville, mais on ne peut pas présenter sa reconstruction. Alors ça, oui, mais alors ce qui c'est rageant, parce que c'est une des rares scènes pour laquelle j'ai retrouvé des négatifs originaux, pas assez pour le faire.
Or, c'est vrai que projetée sur un seul écran, elle est déjà tellement incroyable, scène, qu'on aurait vraiment envie de la voir sur trois écrans. Alors, j'ai une petite surprise pour vous, c'est l'intervention de notre ami commun, Marc Guidoni, qui vous pose une petite question beaucoup plus personnelle. Il s'inquiète un petit peu pour vous, le camarade Guidoni.
Il a peut-être raison.
Oui, bonjour Georges. Je suis très heureux de pouvoir te poser une petite question. Alors, on se connaît dans la vie, donc je fais pas semblant de ne pas te tutoyer. Je voulais savoir comment tu avais résisté à cette espèce de malédiction qui fait du Napoléon de Gans une espèce de tombeau de Toutankhamon du cinéma, qui fait que tous les gens qui s'en sont approchés, notamment toutes les générations de restauratrices et restaurateurs depuis quasiment 100 ans, ont tous basculé dans une forme de folie. Est-ce que toi aussi, tu as succombé à ça? Est-ce que tu n'es pas devenu totalement fou? Donc, est-ce que tu peux nous éclairer sur cette question, cher Georges?
Alors, je reconnais bien la pertinence de Marc Guidoni dans cette question. C'est indéniable. On ne sort pas indemne de la restauration du Napoléon. Ça, c'est indéniable. Nicolas Saada m'a écrit un mot formidable. Il a dit, ce qui a été fou dans cette restauration, c'est que tu as réussi à gérer le chaos de Gans sans être sujet à la contagion du chaos. Ça, si j'ai pu le faire, c'est à cause de deux choses. Trois, peut-être. La première, c'est qu'à la base, j'ai une formation scientifique. Ben oui, vous parlez à un ex-futur pharmacien. Voilà, bon. Donc, ça veut dire que quand la grâce n'est pas là, on ouvre le capot et on démonte les bougies. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir séparer très vite l'affect de la technique. Et puis ensuite, il y a eu deux belles amitiés qui m'ont toujours soutenu et protégé de l'œuvre abstraite, en quelque sorte, de Gans. C'est Clarisse Gans, c'est Claude Lafaille. Et avant tout, ça a été ses humanités. Et puis surtout, et ça a été la seule condition que j'ai posée à Laurent Manoni quand il m'a appelé à la Cinémathèque française, parce que j'avais vu les dégâts qu'avait fait le travail du Napoléon sur Bambi Ballard, qui avait fait un excellent travail, mais qui a été malheureusement sans protection. Je lui ai dit, je suis d'accord, mais je vais absolument être entouré d'être une équipe qui va me protéger de ce monstre. Et la Cinémathèque française a pu me protéger. Maintenant, vous savez qu'une ambulance m'attend au sortir du studio.
Merci Georges Bourrier, c'était passionnant.
Nous passons l'antenne à Cause Commune et merci de cette interview absolument passionnante. Et Enrico Bongiovanni, qui est de l'autre côté de la vitre, mon cher Enrico.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.